Modification statutaire de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, la loi du 7 août 2015, qui s'appelle loi NOTRe.
7600 logements vides et un bidonville César à rupture d'image.
A apporté des modifications dans la répartition des compétences des différents échelons des collectivités territoriales. Alors, dans le cadre de l'obligation faite aux EPCI de mettre leur statut en conformité avec ces nouvelles dispositions au plus tard le 31 décembre, le Conseil de communauté de Metz Métropole a adopté par délibération du 26 septembre dernier les statuts modifiés intégrant une mise à jour de la liste des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives de la communauté d'agglomération. Ces statuts modifiés sont transmis à l'ensemble des communes membres qui disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer dans les conditions de majorité qualifiée, ces 2/3 des communes, je vous le rappelle, représentant la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les 2/3 de la population, cette majorité devant comprendre la commune la plus peuplée, c'est-à-dire Metz, si elle représente plus du quart de la population de l'EPCI. Les modifications concernées, induites par la loi NOTRe, mais également par la loi pour l'accès au logement, dite loi Allure, du 24 mars 2014, sont principalement les suivantes. En matière de développement économique, suppression de la référence à l'intérêt communautaire en ce qui concerne la compétence de création, aménagement, entretien, c'est-à-dire que tous les actes deviennent communautaires. Suppression de la référence à l'intérêt économique en matière d'action développement économique. Il n'y a plus de compétences municipales en matière de développement économique. Tout est transféré à l'agglo. Je fais simple. Transfert de compétences nouvelles en matière de politique locale, du commerce et de soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Là, il peut y avoir du commerce de centre-ville, du commerce local et du commerce d'intérêt communautaire. Par exemple, les grosses installations du genre de celles qu'on a connues pour WEV ou pour Muse. Transfert de compétences en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme. Il n'y a plus d'offices de tourisme municipaux. En matière de cohésion sociale, suppression de la référence à l'intérêt communautaire en matière de politique de la ville. Il n'y a plus de politique de la ville municipale. Il y a une politique de la ville d'agglomération qui se décline dans les quartiers et en différentes communes. Je poursuis. Transfert de la compétence obligatoire en matière d'aire d'accueil des gens du voyage. Il n'y a plus d'aire d'accueil des gens du voyage de ici ou là. C'est toutes des aires d'accueil des gens du voyage de l'agglomération. En matière d'aménagement de l'espace communautaire, transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale au 27 mars 2017.
Ils voulaient vous remercier pour les 3 jours d'école qu'ils ont pu avoir et ils voulaient savoir maintenant quand est-ce qu'ils auront un toit, quand est-ce qu'ils pourront dormir ailleurs que dans la boue, dans la merde, dans la misère. Quand est-ce qu'ils pourront,
monsieur, j'ai demandé à la police municipale
devant un incinérateur,
de me permettre
vous offre ce dessin
de terminer.
Ils ont dû aller 3 jours à l'école et maintenant ils veulent savoir quand est-ce qu'ils auront un toit. Vous avez dit, monsieur le maire, regardez-moi dans les yeux.
Ça suffit.
Vous avez dit, monsieur le maire, regardez-moi dans les yeux, vous ne pouviez pas dormir. En regardant ce camp, vous n'arrivez pas à dormir, monsieur le maire. Est-ce que vous arrivez à dormir en sachant qu'il y a 7500 logements
vides ? Je suspends la séance.
7500 logements vides alors qu'il y a des gens qui dorment dans la boue. Dans la misère, voilà votre réponse. On veut savoir quand est-ce qu'ils seront relogés, où ils seront.
Si vous voulez bien prendre place, s'il vous plaît. Bien, j'en avais presque terminé. En matière d'environnement, transfert de la compétence GEMAPI, c'est très important, c'est la compétence sur la gestion des milieux aquatiques et des inondations. Transfert de la compétence eau au plus tard en 2020. Et sur le plan local d'urbanisme, j'avais pas encore indiqué que ce transfert devrait se faire au plus tard au 21 mars 2017, sauf s'il y a opposition de 25% des communes représentant 20% de la population. Alors, le Conseil de communauté a par ailleurs par délibération du 7 mars dernier, engagé le processus de transformation au 1er janvier 2018 en communauté urbaine, qui impliquera les transferts de compétences supplémentaires, notamment en matière de voirie et d'énergie, et qui, surtout, par une dynamique d'intégration communautaire renforcée, permettra à notre agglomération de conserver sa visibilité et de renforcer son attractivité à l'échelle de la grande région remodelée des territoires transfrontaliers nationaux et européens. Il est proposé d'adopter les statuts modifiés de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, tels que joints en annexe. Et sont inscrits, alors, M. Lekadir, Mme Kosik, M. Thierry Jean, Mme Sagrafena, M. Cambianica, Mme Zimmermann, Mme Collin-Sternet, M. Lebeau, M. Jérémy Aldrin, M. Gourlot. Alors, on va commencer par M. Gourlot. Allez-y, M. Gourlot.
Monsieur le maire, dans le jeu institué par la loi NOTRe, qui est de déshabiller Petit Paul pour habiller Gros Jean, nous trouvons le transfert de compétences de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, bon, qui vous venez de l'annoncer, qui disparaissent donc à Metz, au profit de la métropole. Quelle sera l'articulation avec les comités départementaux et régionaux du tourisme ? Transfert de compétences en matière d'aire d'accueil des gens du voyage. C'est le seul transfert qui trouve ici grâce à nos yeux. Transfert de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Le transfert permet à l'agglo de créer un nouvel impôt, une taxe à hauteur de 40 euros maximum par habitant. Prenez-vous ici ce soir, ink and ink, monsieur le maire, l'engagement que Metz, au sein de la métropole, ne crée pas ce nouvel impôt. Sauf, et j'en ai bien peur, que votre place de second sur le podium national des hausses d'impôts ne vous satisfasse pas et vous visiez la première en la matière. Toujours est-il que l'on voit là encore une perte d'autonomie des maires au profit de supermaires, en particulier avec le transfert des compétences en matière économique et bientôt le transfert de compétences en matière de plan local d'urbanisme, qui était l'un des vrais leviers dont disposait encore l'édile pour transformer sa ville avec le soutien de sa population. J'anticipe, mais je sais que bientôt, le maire nouvellement élu ou réélu trouvera dans son pactage, outre son écharpe tricolore, une paire de ciseaux destinés à couper les rubans des fêtes locales et réalisations imposées ou les chrysanthèmes du parterre de l'hôtel de ville. D'acteur de son destin, il sera un spectateur de sa propre déchéance. Sic transit Gloria Mundi. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Aldrin.
Oui, merci, monsieur le maire. Permettez-moi de poursuivre sur ce débat autour de la métropole. Pour vous dire et pour insister sur le caractère d'urgence, tant il est vrai qu'il est assez désagréable de lire dans des revues, dans des hebdomadaires, ces classements des villes, des métropoles. J'ai vu ces dernières semaines le classement de la revue de référence en sciences démographiques qui a classé Metz parmi les villes déclinantes, au même titre que Valenciennes, Béthune, Le Mans. J'ai rien contre ces villes, mais je préférais qu'on soit au niveau de Strasbourg, Reims ou Nancy. Il y a aussi le dossier de l'Express entre Metz et Nancy qui est accablant pour Metz, permettez-moi de le dire comme je le pense, et qui, je dirais, reflète une certaine réalité. Alors, on en revient du coup à cette problématique de Metz-Yonville. Tout le monde a bien conscience que ça ne se fera pas du jour au lendemain, qu'il y a toute une série d'étapes intermédiaires. Et c'est sur ces étapes intermédiaires qu'il faut avancer et agir vite. Je me permets donc de rapporter la position de notre groupe sur la nécessité d'avoir un grand Metz rapidement. Vous portez du nord, Amnéville, Rombas, Mézières, Rive de Moselle et Cessépomme, c'est une chose, mais n'oublions pas le sud non plus. Puisque tout à l'heure, j'ai cité Brest, et parmi les équipements qui ont permis à Brest d'obtenir ce statut de métropole, il y a l'aéroport de Brest-Bretagne, et qu'on gagnerait, je le répète, à avoir une gare Lorraine TGV, un aéroport, même si je suis d'accord avec vous pour dire que la gestion de ces dernières années de cet équipement a été plus que critiquable, sur le champ intercommunal de Metz. Ça le renforcerait et ça positionnerait les fonctions métropolitaines de notre ville et assurerait un avenir qu'on espère meilleur dans les prochaines années. Je vous remercie.
Merci. Alors, Madame Zimmermann.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur le maire, lorsqu'on regarde les ordres du jour, parce que j'ai fait un petit peu comme vous, de temps en temps, jadis naguère, lorsqu'on regarde les ordres du jour des conseils municipaux d'il y a une dizaine d'années seulement, on regarde et on constate que la quasi-totalité des dossiers importants étaient gérés au conseil municipal de Metz. Aujourd'hui, la loi NOTRe s'inscrit dans une évolution qui veut complètement faire disparaître les communes. Et là, Mais si, je crois que... Attendez, vous regardez le rapport qu'on est en train de faire. Vous-même, vous l'avez noté là tout à l'heure. Et bon, il y a un point sur lequel, parce que on s'est partagé vraiment correctement notre temps de parole. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais simplement vous dire, monsieur le maire, vous savez, j'ai fait un décompte du temps de parole. Et vous savez qu'au mois de septembre, j'avais demandé, bon, quand on faisait le total, on avait demandé 1h19. On a pris 1h08. Bravo. Donc on est vraiment dans les temps. Bien. Voilà. Et votre majorité, rapport tout compris, on était à 3h55. Donc, si vous voulez, je crois que, bon, il y a aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut qu'on soit raisonnable là-dessus, et on essaye les uns et les autres d'être vraiment, disons, corrects par rapport à ça. Donc, je reviens à mon point. Moi, il y a quand même, j'ai une inquiétude sur ces points-là. Et moi, je voudrais développer un seul point qui m'inquiète beaucoup. C'est le transfert du plan d'urbanisme, du plan local d'urbanisme, des PLU. En effet, je dirais que quelque part, les PLU permettaient aux conseils municipaux de choisir un urbanisme dans leur commune. Or là, lorsque l'on transfère, il est certain que, voilà, on n'a plus cette capacité et, quelque part, le maire, tout à l'heure, Thierry Gourlot l'évoquait, il aura son écharpe, c'est vrai, peut-être pour marier, enfin j'espère, du moins encore, parce que lorsqu'on regarde certains pays autour de nous, lorsqu'on passe dans ces intercommunalités, il y a même, c'est même plus le maire de la commune qui fait le mariage, sauf exception. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui un souci de proximité et un souci de liberté également par rapport au développement d'une commune. Et ce point-là, notamment, dans la loi, je dirais que les communes peuvent s'opposer notamment au transfert du PLU au profit des intercommunalités. Il suffit simplement d'une minorité de blocage. Et c'est ce point-là, moi, qui me fait, je dirais, le plus peur par rapport au transfert. Les autres, et tout à l'heure, je l'évoquerai dans les conventions, il y a vraiment, dans ces nouveaux statuts, des inquiétudes pour les maires des communes périphériques. Donc, je me permettrai, comme j'ai voté contre la loi NOTRe, j'ai voté contre la loi Allure. Je me permettrai simplement de m'abstenir sur ce point.
Merci, madame. Monsieur. Merci, madame. Madame Collin-Osterlet. Merci, monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, cette modification va dans le sens de l'intégration et d'être plus fort ensemble. Un regret, c'est que cette communauté urbaine, tant souhaitée, n'arrivera que le 1er janvier 2018. Et si elle avait pu aboutir au 1er janvier 2017, par la volonté, si on avait des politiques qui avaient de l'ambition, de l'audace, on aurait peut-être eu des taxes d'habitation et taxes foncières différentes. Parce que, comme nous l'a expliqué à longueur de temps votre adjoint aux finances, qui est peut-être certes meilleur conseiller qu'administrateur des finances, il nous a bien expliqué que le fait de devenir communauté urbaine permettait d'obtenir plus de dotations globales de fonctionnement ou tout du moins de réduire la diminution. Donc, un réel regret sur le fait que nous n'allons pas malheureusement assez vite dans ce sens. Et un point pour expliquer la nécessité impérieuse de devenir métropole, c'est quand on prend le TGV pour aller à Lyon. Depuis quelques mois, nous devons passer par Strasbourg. Et là, on n'est nulle part. Le sens historique, nous étions sur un axe romain d'une verticalité totale. Maintenant, nous passons par Strasbourg pour aller à Lyon. Bientôt, nous allons disparaître. C'est vraiment un enjeu majeur. Je vous taquine tout à l'heure sur le fait que vous n'étiez, j'espérais que vous alliez devenir un grand-maire, mais monsieur le maire, c'est une nécessité totale de réussir le fait que l'amendement passe et que l'on devienne métropole, c'est pour que Metz reste dans les radars au niveau de la France C'est vraiment vital. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Lebeau. Madame Sagrafena.
Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Je me suis déjà étonnée au Conseil de Metz Métropole que ma demande de prendre en compte une politique ambitieuse de la petite enfance n'ait pas été retenue comme une compétence pour moi essentielle dans une politique familiale, sociale de notre territoire. Avec cette nouvelle marque de territoire, Inspire Me and You, que je prends comme une véritable invitation, voire une incitation, je réitère ma démarche et j'espère que dans un prochain point d'étape, la petite enfance inspirera une politique ambitieuse, sociale mais aussi sociétale, pour répondre aux enjeux démographiques et pour l'attractivité de notre territoire. Merci, Monsieur le maire.
Merci, Madame. Monsieur Kambianika.
S'il était possible, nous aurions bien pu passer directement en métropole avec des compétences accrues, ce qui serait un plus pour l'attractivité du territoire, l'économie et la solidarité, et accessoirement les finances de la collectivité. Mais cette nouvelle règle donnera de la cohérence à l'ensemble, et je suis partisan de distinguer ce qui ressort de l'urbain total, du rurbain ou du rural, dans la gouvernance qui devra mettre en place les problématiques pouvant être différentes, avec des filtres de décision appropriés. Mais il est un point qui conjugue centralité et ruralité, c'est la petite enfance et en particulier l'accueil des enfants. Par le jeu des classes d'âge, de l'attirance pour le périurbain, de la facilité de déplacement, les crèches messines ne font plus tout le plein malgré leur qualité. La problématique d'un ajustement des ressources à la demande est donc posée avec deux façons de la résoudre. Fermeture et regroupement de crèches, suppression de postes pour sauvegarder un lieu. Dans un cas comme dans l'autre, il sera difficile de revenir en arrière. Or, dans l'attractivité globale de notre territoire, l'existence de capacités de crèches n'est pas neutre pour les entreprises et nombre de communes périurbaines n'ont souvent pas la taille critique ou les moyens de mettre en place ce type de structure et de compétences. Il serait donc positif pour nos concitoyens et pour notre territoire de rendre communautaire ce genre d'équipement. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Thierry Jean.
Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il ne faudrait pas que le débat se contente d'opposer des gens qui disent que ça va bien et des gens qui disent que ça va mal. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Honnêtement, notre agglo ne va pas très bien. Et c'est pour ça qu'il faut se battre, c'est pour ça qu'il faut construire une stratégie, c'est pour ça qu'il faut démontrer notre résilience, c'est-à-dire notre capacité non seulement à résister, mais à rebondir sur une situation difficile. La situation, pourquoi elle est difficile? Tout a commencé en 2008, mais pas pour la raison que vous croyez. Parce que les restructurations militaires ont eu un impact qu'on ne mesure que maintenant. Les restructurations militaires se sont traduites par des suppressions d'emplois, par le départ de familles et, par voie de conséquence, par des suppressions d'emplois dans ce qu'on appelle l'économie présentielle. Et donc, ça a été l'impact. À l'époque, j'avais dit que j'évaluais l'impact en PNB à 100 millions par an. Et on m'avait ri au nez. Je maintiens, je suis prêt à le démontrer, je n'ai pas le temps, je maintiens que c'est de l'ordre de 100 millions d'euros par an. Et la compensation qu'on a eue, c'est 36 millions. Donc, en fait, la compensation, le contrat de reconversion des sites de défense nous a permis de compenser 4 mois d'impact économique sur le territoire. Ensuite, en 2010, une crise économique qui nous impacte un peu plus que les autres parce que nous sommes un peu plus industriels que le reste du territoire. Donc, cette crise touchant principalement l'industrie nous touche un peu plus que les autres. Et puis, en 2016, alors vous allez dire j'en ai pour tout le monde, oui, malheureusement, en 2016, on perd notre statut de capitale régionale. Tout le monde s'attache à nous rassurer, à commencer par le président du Conseil régional qui fait l'effort de venir souvent et de dire qu'il nous aime, mais il n'en reste pas moins que nous avons perdu des centres de décision, que nous perdrons des emplois parce que l'État va se rationaliser, la région va se rationaliser et nécessairement, avec le temps, eh bien, il y a des postes qui vont tout naturellement disparaître. Ceux qui travaillent de manière étroite avec la préfecture et le Conseil régional savent très bien que la situation actuelle est une situation provisoire. Donc il faut qu'on assume tout ça et qu'on le sache. Alors, par contre, Metz garde une situation géographique qui est une situation privilégiée. on est dans cette très grande région, à l'épicentre, on est à peu près sur l'axe, on reste un carrefour nord-sud-est-ouest, sur l'axe nord-sud, on est à peu près à équidistance de Luxembourg et Nancy, sur l'axe est-ouest, on est à peu près à équidistance de Strasbourg et Reims. Bon, Luxembourg, c'est la capitale d'un État, et d'un État qui va bien. Strasbourg, capitale, entre guillemets, capitale européenne, mais en tout cas capitale régionale, ça fait aucun doute, et Reims a définitivement décidé qu'il fallait qu'elle regarde vers l'ouest et qu'elle se rapproche de Paris. Et puis Nancy a beaucoup gagné dans tout ça, puisque il y a encore quelques mois, le maire de Nancy ne pouvait pas dire « nous, capitale ». Aujourd'hui, il dit « nous, capitale », pendant 700 ans, du duché de Lorraine. Et c'est vrai. On est à côté, on ne peut pas lui dire, oui, ben on ne va pas lui dire, nous, capitale administrative pendant 35 ans. Non, donc aujourd'hui, Nancy, de fait, est redevenue capitale de la Lorraine et métropole, alors que nous ne le sommes pas. Hein. Et nous, on débat, mais j'y reviendrai, sur le sujet. Alors, nos atouts, c'est quoi ? Ben, nos atouts, c'est que nous gardons ce tissu industriel que je défends avec toutes les casquettes qui sont les miennes. Nous avons cet atout géographique qui fait de nous un centre logistique, qu'on le veuille ou non. C'est plus l'euphorie des années 90, mais quand on regarde le nombre d'emplois que nous avons dans la logistique, ça reste important. Et puis, nous avons une offre commerciale importante. Alors, on peut avoir une approche négative en disant on a trop de mètres carrés de commerce. Bon, ayons une approche positive en disant les gens viennent chez nous. Alors, j'ai lu récemment qu'ils venaient un peu plus à Thionville, bon, peut-être, mais en tout cas, nous sommes de ce point de vue-là attractifs. Et puis, n'oublions pas quand même les conséquences d'une politique volontariste forte depuis des années et des années qui font que, en matière de matériaux, eh bien, on a développé des labos, on a fait venir, et on, c'est pas nous, des écoles d'ingénieurs. Par contre, on a appuyé la création d'un pôle de compétitivité, d'un IRT, on a réussi l'Institut Lafayette, bien évidemment, donc... Adossé à Georgia Tech, mais sorti sous le premier mandat de Dominique Gros. Et donc tout ça fait que, le CATEC, je ne sais plus si je l'ai cité, enfin tout ça fait qu'on a un certain nombre d'atouts sur lesquels il faut construire. Alors, ce qui m'agace toujours, peut-être lié à ma personnalité, mais c'est que j'ai l'impression qu'on met un temps fou. Alors, j'ai regardé, si on fait la communauté urbaine le 1er janvier 2018, on aura gagné 8 ans sur Nancy, c'est-à-dire qu'on n'aura plus que 22 ans de retard. Lorsqu'on a créé une structure à fiscalité propre, on avait 30 ans de retard. Eux l'avaient fait 30 ans avant nous. La communauté urbaine, ils ne l'ont fait qu'en 96. Donc, si nous l'avons créé en 2018, ça fait plus que 22 ans. Donc, tendanciellement, d'ici 4 ou 5 siècles, monsieur le maire, on aura rattrapé Nancy, puisque si tous les 30 ans, on gagne 8 ans, ça peut à peu près faire ça. Bon. Pour terminer, il faut renforcer impérativement les réseaux dans lesquels nous sommes, parce que Metz aujourd'hui, dans ce quadrilatère, se trouve un petit peu isolé, mais cet isolement peut aussi être une force parce que ça nous permet de travailler avec d'autres gens que ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler. Je dis à de nombreuses reprises qu'il fallait qu'on renforce la collaboration avec Luxembourg. Moi, je suis très content. Alors, je ne sais plus qui disait que le quadrilatère ne figure pas forcément le quadropole pour les Toulousains. Je partage assez ce point de vue. Ça mérite d'être expliqué, mais en tout cas, ça mérite surtout d'être affirmé. C'est quelque chose d'essentiel. Il faut qu'on travaille plus avec Luxembourg, il faut qu'on travaille plus avec l'Allemagne, il faut qu'on travaille plus avec nos voisins. Ensuite, il faut assumer qu'il faut nous donner les moyens de cette politique volontariste. On culpabilise toujours sur l'impôt. Il ne faut pas culpabiliser sur l'impôt. Il faut se dire qu'on traverse un moment difficile et que ce moment difficile, eh bien, passe aussi par une action volontariste qui a un coût. Et enfin, je pense qu'il faut proposer, et comme nous avons la chance d'avoir la deuxième vice-présidente du département de la Moselle parmi nous, je pense qu'il faut proposer ce qui se fait dans la plupart des départements. L'exemple le plus emblématique est Lyon, mais je pourrais citer d'autres exemples. Il faudrait que le département de la Moselle développe son agence d'attractivité au service de la métropole, c'est-à-dire qu'il apporte ses moyens à Metz Métropole Développement pour que la promotion du territoire se passe autour de Metz. Hein. Si je vous demande qu'est-ce qu'on vend en Haute-Garonne, vous n'allez pas y penser tout de suite. Hein. Il faudra que je vous dise qu'en Haute-Garonne, il y a Toulouse et qu'on y fait des Airbus. Hein. Mais tout le monde sait où est Toulouse. Quand je vous dis où est la Haute-Garonne, hein, à part les passionnés de géographie, vous mettez quelques minutes à la situer, et encore les plus jeunes, je suis sûr qu'ils ne la situent plus, mais en tout état de cause, c'est dans les métropoles que ça se joue. Bon, je suis en désaccord avec Gourlot, mais ça, c'est pas un scoop. Commune, département, c'est plus la bonne échelle. La bonne échelle aujourd'hui, c'est métropole, région, et c'est cette carte-là qu'il faut jouer, et il faut la jouer avec tout le monde. Je vous remercie.
Merci. Madame Kosik.
Oui, oui, je le vois.
Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. Je partage bien évidemment le diagnostic de Thierry Jean. Et je pense que par rapport à cette proposition, il est important aussi qu'on prenne de la hauteur. C'est une délibération, finalement, qui nous permet de nous mettre en conformité avec la loi Allure et la loi NOTRe. Mais je crois qu'on doit également la considérer comme une nouvelle étape d'un processus qui est irréversible et qui va modifier en profondeur notre espace communautaire, même si ce n'est pas assez vite, comme l'ont dit un certain nombre des intervenants. Excusez-moi. Nous sommes dans cette assemblée majoritairement convaincus que l'intercommunalité est l'avenir des communes, Madame Zimmermann. Je ne partage pas votre avis. Je pense que c'est en créant des dynamiques de mutualisation, de solidarité, de projet, que les communes continueront à exister dans le respect de leur identité propre. Nous constatons que les modes de vie ont changé, que la mobilité et les distances ne sont plus celles qui avaient présidé aux découpages territoriaux anciens. Nous savons aussi, bien sûr, que les inégalités territoriales existent entre des centres urbains dynamiques et certains territoires ruraux ou périurbains, et que, justement, la réforme qui conforte la métropolisation bénéficiera à tous les territoires. Il y a bien sûr des raisons économiques, Thierry Jean en a largement parlé, et qui nous sont rappelées d'ailleurs par les entreprises de notre propre territoire, mais je crois qu'il y a aussi une exigence démocratique. La réalité économique n'est pas la seule qui existe. On sait que nos concitoyens ont des exigences contradictoires. Plus d'actions publiques, mais moins de dépenses publiques. Nous ne pouvons répondre à cette double exigence que par une meilleure définition des compétences de chacun. C'est l'objet de la suppression de la clause générale de compétences et par des établissements de coopération intercommunale qui sont à des bons niveaux, qui sont à des tailles significatives et qui vont garantir un service de qualité grâce notamment à la mutualisation des moyens. Monsieur le maire, le législateur nous a donné des outils, une action publique territoriale plus efficiente. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est aussi de l'expliquer à nos concitoyens pour que chacun soit fier du territoire sur lequel il vit. Mais notre responsabilité, c'est aussi de réparer l'erreur politique de 2002. Je ne crois pas que le problème ait commencé en 2008, comme l'a dit Thierry Jean. C'est quand même dans le choix géographique de la CA2M en 2002 que commence aussi le problème qui explique une partie de notre retard. Je vous remercie.
Merci. Madame Kosik, et malgré votre voix en difficulté, moi je voudrais vous remercier de ce débat parce qu'il est extrêmement intéressant et constructif et met bien en valeur les arêtes des uns et des autres. Monsieur Gourlot, vous êtes dans votre rôle, hein, commune, département, point final. On a du respect pour les anciens qui pensent comme au moment où on a créé les communes et les départements, c'est-à-dire en janvier 1790. C'est respectable. J'ai une carte authentique de janvier 1790 de la Moselle. Et effectivement, c'était les paroisses qui étaient transformées en communes. On peut toujours rêver sur cet idéal passé, mais entre-temps, on a inventé Internet, on a inventé l'automobile et on a inventé les communications plus rapides que celles de l'époque. Hein, et donc, je soutiens pour ma part le projet qui consiste à ce que la France progressivement évolue dans une direction renforçant les régions et les métropoles. Monsieur Aldrin, je suis d'accord avec vous. Sur le fait qu'on ne faut pas oublier le Sud. Le Sud, d'ailleurs, est tout près de nous. On le rencontre régulièrement. Et la gare TGV et l'aéroport ont de l'importance pour l'agglomération messine, bien entendu. Donc je vous suis complètement. Ça n'empêche que l'essentiel de l'effort est quand même à forter vers le nord, parce que c'est là qu'il y a plus de substance. Mais entièrement d'accord avec vous. Madame Zimmermann, vous avez une position que je respecte, et je la comprends en plus de ça, parce que vous avez assumé des votes à l'Assemblée nationale. On peut concevoir que la loi NOTRe et la loi Allure amènent des oppositions. Je ne veux pas caricaturer la pensée de l'opposition nationale par rapport à ces problématiques.
Parce que, par exemple, je fréquente assidûment M. Rossino, qui, lui, a défendu tout ce qu'il a pu, cette loi. Il en a profité, puisqu'on a admiré la vista avec laquelle il a sauté sur l'occasion pour demander une exception au Premier ministre, avec l'appui de son département préféré, c'est-à-dire la Meurthe-et-Moselle, hein, et des parlementaires locaux, hein, pour obtenir un statut de métropole qu'il n'aurait pas pu avoir si on avait appliqué la loi directement. Ce qui veut dire que, là-dedans, les séparations sont très bizarres. Hein, et d'ailleurs, le débat qu'on a aujourd'hui est très intéressant, puisqu'on a commencé à dire que c'était bien de revendiquer le statut de métropole, et en même temps, après ça, on a un débat sur une étape, qui est une étape intermédiaire, qui est celle qui consiste simplement à appliquer la loi NOTRe, une étape modeste. Hein, et on s'aperçoit, on est de plus en plus dépendant de l'agglomération sur beaucoup de sujets. Par exemple, le sujet qui nous préoccupe sur les ordures ménagères ici, les conteneurs, etc., c'est l'agglo. Et pour rien vous cacher, je vais vous dire, madame, que quand on réfléchit à l'urbanisme, les vraies décisions, maintenant, elles se prennent au SCOTAM, qui est un lieu tout à fait important où on peut maîtriser l'envolée des immensités de maisonnettes qui vont partout. Hein, puis après ça, des gens qui arrivent en voiture en disant « mais tu sais, ça coince, on n'a pas... » Le SCOTAM est un outil extrêmement fécond pour permettre de réfléchir ensemble. Tous ensemble, y compris le Sud, d'ailleurs, monsieur Aldrin. Parce qu'ils sont dedans, et y compris le Nord, qui sont dedans aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on réfléchit à l'évolution de l'aire urbaine qui est autour de Metz à travers des outils qui sont déjà en place. Et on sait très bien qu'il y a toujours des compétitions entre les territoires, même intra-agglo, et qu'effectivement, on ne peut pas non plus rester indifférent au fait qu'on a besoin d'avoir une certaine possibilité d'agir sur son propre sort. Mais je vous rassure, hein, dans... Le PLUI tel qu'il se définit, les collectivités, les maires, c'est toujours eux qui signeront les permis de construire, d'ailleurs. Hein, je le signale au passage. On avait déjà eu le débat dans l'agglo. Et finalement, maintenant, on est en train de comprendre que ça fait partie des choses qui vont renforcer l'agglo. Alors, la liste est impressionnante. Et personnellement, je pourrais penser que je vais être déshabillé de mes pouvoirs de maire. En réalité, je milite, ça ne vous a pas échappé, parce que c'est le discours que j'entends. Un peu partout, je milite pour l'agrandissement et le renforcement de l'agglomération de façon à ce qu'elle devienne une métropole. Et donc, on est pris, si vous voulez. C'est vrai que l'ancienne commune de Magny n'est plus une commune. L'ancienne commune de Borny n'est plus une commune. Il y a des étapes qui ont été franchies et après ça, ça laisse des souvenirs. En même temps, ça a renforcé la ville de Metz. Beaucoup de gens disent que mon don était prophétique parce que, justement, il a réussi à agrandir le banc de Metz et que grâce à lui, etc., etc. Donc, on est dans des démarches qui sont très complexes. Et moi, j'apprécie votre abstention parce qu'en fait, vous auriez pu voter contre. Et en réalité, vous avez aussi le sentiment qu'on a besoin de se renforcer. Et c'est une étape qui n'est pas une étape qui renforce le président de l'agglo, dont je suis un des vice-présidents. Hein, et oui, mais en même temps, que l'aire de stationnement des gens du voyage soit mutualisée, moi, ça me paraît bien parce qu'en fait... ils vont partout, hein. Les voiries, on verra tout. Après ça, vous allez voir, ça prend de l'importance. Alors, le bon exemple, c'est la petite enfance qui est abordée par deux personnes, Madame Sagrafena et M. Cambianica. Eh bien, oui, il y a énormément de gens qui voudraient bien profiter de ces places de crèche. On leur dit, écoutez, on mutualise et on partage. Et ah oui, mais ça, partager, c'est pas possible parce que fiscalement... Et M. Lebout a raison quand il dit qu'on a raté des millions et des millions de DGF. On a raté des millions et des millions de DGF, on continue à en rater. Et quelque part, M. Thierry Jean, qui a fait une analyse très fine de la situation lorraine, il sait très bien que les additions ne sont pas les mêmes du tout à Nancy et à Metz depuis belle durette, sans compter d'ailleurs la médecine et avec les déficits, le machin, etc. C'est impressionnant la différence. Je suis tout à fait capable de vous en faire un exposé précis. Mais l'État nous encourage à nous organiser en agglomération et il nous sanctionne, tout simplement, en en coupant de la DGF si on ne le fait pas. Les coefficients d'intégration fiscaux, je ne vous raconte pas. Hein, chacun son petit impôt, chacun chez soi, comme le dit le Front National, boum, eh bien, vous n'avez pas d'intégration fiscale, eh bien, c'est tant pis pour vous, je vous baisse votre DGF. C'est un système qui est redoutable, c'est de l'incitation financière, et en ce moment, nous sommes étranglés, aussi bien la ville de Metz que l'agglomération, de nos fautes passées, de ne pas avoir assez vite convergé les uns avec les autres, à l'identique de ce que l'on fait la plupart des métropoles dont il a été expliqué ici et là qu'ils avaient de l'avance sur Metz. Tout simplement parce que, à mon corps défendant, monsieur Lebeau, moi je rame dans ce sens-là depuis que je suis là. Et je rame dans ce sens-là, et petit à petit, je le dis comme je le pense, les mentalités évoluent. Et elles évoluent fortement. Parce que les maires des petites communes, qui au début se disaient « qu'est-ce que ça rapporte à mon village ?», commencent à se sentir des acteurs de l'agglo, au même titre que le maire de Metz ou que les personnes qui sont ici présentes dans cette salle. C'est des évolutions qui se font d'une façon assez radicale. Et moi, je crois que cette loi NOTRe et cette loi Allure ont été des lois qui ont fait faire un progrès considérable au pays, dans le sens de nous obliger à faire de véritables pôles métropolitains qui nous permettent de compétiter avec les autres villes d'Europe et du monde. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. L'analyse de Thierry Jean est très fine, mais je ne veux pas la commenter parce que globalement, je suis assez d'accord. Hein, et je ne suis pas désespéré du tout. Hein. On a simplement... Alors, peut-être qu'on a encore 22 ans de retard, c'est excessif. Hein. Je pense que à la vitesse où on va en ce moment, M. Thierry Jean n'a pas tout à fait suivi mon et connaît pas mal mon tempérament, mais je pense qu'il le connaît quand même. Je lâche rien dans ce domaine-là. Je ne lâche rien. Et si je vous ai fait le point d'information du début, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Hein. Voilà, merci de vous le dire. Alors, je vais mettre aux voix cette modification statutaire de la communauté d'agglomération de Metz Métropole. On va soigneusement noter les votes, puisqu'il y a des votes différenciés. Alors, qui est contre ? Expliquez votre vote, monsieur.
Oui, simplement, je veux vous dire qu'une coopération entre communes, c'est toujours possible. On est pour cela, mais pas pour la fusion ni la disparition. C'était pour préciser notre pensée. Quant aux provinces, elles existaient, préexistaient avant la Révolution, puisque c'était un héritage des rois. Donc, le département est peut-être plus moderne que la province. Donc, vous êtes, alors, qui est le réactionnaire de nous deux ? Voilà.
Alors, qui est contre ? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 abstentions et les autres sont pour. Eh bien, écoutez, c'est clair. Donc, c'est effectivement un vote très diversifié. 4 abstentions dans les rangs de l'opposition et 4 abstentions dans les rangs de l'opposition Front National. Et 4 contre dans les rangs de l'opposition Front National. Voilà. Ben, je vous remercie pour ce vote important parce que sans nous, il n'y a pas d'évolution de l'agglo. Hein. La loi était très claire là-dessus.